voix nue. Cette semaine, Jean-Marc Cantor rencontre Jack Lang. Ce soir, du droit à la culture.
Bonsoir Jack Lang.
Bonsoir.
C'est notre deuxième rendez-vous cette semaine. Hier soir, nous avons parlé de vos origines, de votre enfance, de votre famille, de votre formation universitaire, de vos brillantes études. Mais on a aussi appris que vous aviez d'autres passions, le droit et la science politique, mais pas que. Vous nous avez parlé des langues, mais moi j'ai surtout connu ou découvert votre passion pour la culture et le théâtre en particulier. Comment est née cette passion pour le théâtre ?
Tout petit, j'ai aimé le jeu, j'ai aimé les textes de théâtre. J'en dénichais parfois dans le grenier de mes parents. Je me souviens la grande illustration, elle reproduisait régulièrement des textes de théâtre, souvent des textes de théâtre de boulevard, mais j'aimais le dialogue, j'aimais les personnages, j'aimais aussi surtout imaginer comment ces personnages rentraient en lutte ou en amour ou en rixe ou en étreinte les uns avec les autres. Et le soir, je lisais beaucoup de textes de théâtre quand j'étais adolescent, des textes classiques aussi, Shakespeare, Molière, mais aussi des textes contemporains. Et puis, j'allais au théâtre assez souvent. C'est ma grand-mère maternelle qui m'a initié à la découverte du théâtre, dans ce magnifique théâtre de la place Stanislas à Nancy, qui deviendra plus tard le siège de ce festival mondial du théâtre, enfin, en tout cas le haut lieu. Voilà, et j'ai monté des pièces, et puis un jour, je me souviens, je suis allé au conservatoire de Nancy, j'avais 16 ans peut-être, et j'y allais surtout pour mieux articuler. Je ne suis pas certain d'avoir atteint le résultat parfait, mais je devais lutter contre un petit zozotage, on dit ça encore maintenant.
Mais qu'est-ce qui vous plaît au théâtre ? C'est le fait de jouer, c'est le fait de raconter des histoires, c'est le fait d'être sur scène, c'est le fait que ça soit vivant.
Oui, si vous venez dire ça, c'est on est confronté à la vie en effusion, à la vie en mouvement, à la vie en ébullition, voilà. Oui, la présence physique, le souffle des acteurs, la respiration, c'est bouleversant même parfois. C'est drôle quelquefois, mais c'est souvent bouleversant. Et le conservatoire était pour moi l'occasion d'améliorer ma diction, de rencontrer des passionnés de théâtre. Et c'est là où j'ai eu le bonheur, le privilège de rencontrer la personne qui est devenue la femme de ma vie, Monique. Elle était merveilleusement douée. Elle avait une diction parfaite, encore aujourd'hui. Elle était pleine de vie, pleine de charme. Elle était le personnage clé de ce petit groupe de jeunes qui essayaient de pratiquer le théâtre.
Alors, effectivement, il est difficile de parler du théâtre et de votre inscription au Conservatoire de Nancy sans parler de celle qui deviendra votre future épouse. J'ai retrouvé cette affirmation. Elle déclare « Je me souviens de lui poussant la porte de la classe de diction ». J'ai tout de suite remarqué son allure, ses vêtements. Il était très original. Je l'ai dragué. Pour l'épreuve de réplique, je lui ai demandé de jouer avec moi. Elle vous a réellement dragué ?
Bon, un déclic s'est produit. Et surtout, à l'occasion d'une réplique qu'elle m'a demandé de lui donner dans la Locandiera de Goldoni. Elle jouait l'aubergiste et je jouais le chevalier. Voilà. Et ainsi sont nées les choses par le théâtre.
Vous vous mariez en 1961 et son rôle va être déterminant dans votre vie à la fois professionnelle et affective.
C'est vrai. Ça, c'est vrai. Nous avons tout de suite, si j'ose dire, formé équipe ou équipage. Et là, mille et une qualités d'action, d'intelligence, de... Et disons que tout au long de cette période, sans elle, je n'aurais pas pu accomplir certains miracles. Par exemple, le festival de Nancy, qui est devenu plus tard le Festival mondial du théâtre, est un petit peu entré dans la légende théâtrale. Il est né en partie parce qu'elle s'est engagée auprès de moi pour trouver quelques ressources, des appuis, pour faciliter l'organisation. Nous avions 3 francs 6 sous pour concevoir un tel événement. Elle était déterminante, elle était craquante, elle était... Personne ne pouvait lui résister. Personne ne pouvait lui dire non. Parce qu'elle avait une sorte de sourire séduisant, convaincant et déterminé.
Donc justement, vous parlez du Festival de Nancy. C'est un festival de théâtre universitaire que vous avez créé en 1963. Comment et pourquoi avez-vous créé ce théâtre ?
Les choses ne sont pas calculées souvent à l'avance. Il se fait que la seule chose que j'avais décidée, c'était avec un copain que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Édouard Guibert. On s'était dit, quand on préparait le bac, si nous entrons à l'université, nous allons créer une troupe de théâtre, étudiante. Ce que nous avons fait. Et alors, on a joué toute une série de pièces, Caligula de Camus, La Corde, Céline, etc. Et avec les spectacles réalisés, on se baladait un peu à travers l'Europe. Et on a découvert à ce moment-là qu'il existait 2 festivals de théâtre universitaire, un en Allemagne à Erlangen, un autre en Italie à Parme. Et on s'est dit, pourquoi pas à Nancy ? Un festival comparable, mais en l'élargissant au monde entier.
Tout de suite, vous vouliez une dimension internationale ?
Assez vite, oui, bien sûr. Je suis un peu mégalomane sur les bords, vous l'avez compris. Et donc, créer un festival, oui, mais un festival plus grand, plus large, plus ambitieux. Et ce que nous avons réussi en 2 ou 3 ans. Et progressivement, Nancy est devenue une sorte de capitale internationale du théâtre étudiant, puis plus tard du théâtre d'avant-garde. Et année après année, il s'est imposé comme l'événement phare du théâtre mondial.
C'est important pour vous qu'il s'impose comme...
On préfère toujours que les choses s'accomplissent plutôt qu'elles ne se cassent la figure. D'abord, c'est un festival entièrement fondé sur le bénévolat. Les organisateurs, les acteurs qui venaient du monde entier. Donc il y avait une atmosphère, comment dire, un peu de jamboree. Une atmosphère de camaraderie, de complicité, de fête, d'amour partagé. Et puis, c'était un festival de révélation. La règle principale, c'était que les spectacles choisis n'avaient jamais été présentés auparavant, ou que ce soit en France ou en Europe. Et d'où la découverte, au fur et à mesure, de personnages qui sont devenus célèbres, Patrice Chéreau, ou Bob Wilson, tant d'autres.
Pina Bausch,
oui.
Mais à l'origine, c'est un festival d'amateurs.
Festival d'amateurs de théâtre étudiant. Et les personnages que je vous cite à l'instant étaient eux-mêmes des amateurs. Ils n'étaient pas encore vraiment professionnels. Patrice Chéreau était dans un théâtre universitaire, à la compagnie du lycée Louis le Grand. Bob Wilson n'était absolument pas reconnu aux États-Unis. Il se débrouillait avec... un peu d'argent pour pouvoir faire vivre son école de théâtre, ses danseurs et le spectacle lui-même. Le regard du sourd, qui a été la grande révélation de Nancy et qu'Aragon a célébré comme le plus beau spectacle qu'il n'avait jamais vu en ce monde, je le cite, avait été en partie réalisé avec des acteurs amateurs à Nancy même. Oui, il y avait ce côté vraiment d'improvisation, de liberté aussi,
Comment les compagnies étrangères finançaient leurs déplacements ?
C'est une histoire invraisemblable. Elles se débrouillaient elles-mêmes. Certains vendaient leurs bagnoles pour venir à Nancy. Ou réussissaient à obtenir d'une compagnie aérienne un soutien, un parrainage, ou d'un mécène local, ou d'une université aussi. Mais toutes se débrouillaient avec les moyens du bord et acceptaient aussi des conditions d'accueil très modestes.
Grâce à ce festival, vous êtes repéré par les spécialistes du théâtre et notamment par le ministre de l'époque qui vous propose de venir à Paris. Ça vous a surpris ?
La surprise, c'était que Jacques Duhamel, c'est son nom, Jacques Duhamel, un homme très cultivé et humaniste, avait changé les méthodes de son ministère. Bon, Malraux, qui l'avait précédé, était un immense personnage et avait contribué par sa parole, par sa stature, à faire naître le ministère de la Culture. Mais était coupé des nouvelles générations. Il était plutôt tourné vers les grandes gloires du moment ou du passé. Jacques Duhamel, c'était un vrai changement, a ouvert ses portes aux nouvelles générations, qui n'avaient pas accès au ministère de la Culture, en tout cas au cabinet du ministre, avant son arrivée. Et ses collaborateurs se déplaçaient. Et nous avons eu le plaisir d'accueillir à Nancy, notamment deux personnes pour lesquelles j'ai conservé énormément d'affection. Jacques Rigaud, c'était son directeur de cabinet, il était comme une sorte de vice-ministre. Et Antoine de Clermont-Tonnerre, qui est toujours en fonction aujourd'hui, qui est devenu producteur de cinéma. Antoine de Clermont-Tonnerre était son conseiller pour le théâtre. Et il passait plusieurs jours à Nancy pour humer, savourer, comprendre. Ils étaient des hommes qui aimaient réellement le théâtre et la vie. Et donc on a fait connaissance. Et une sympathie s'est créée entre eux et moi.
Donc il vous propose deux postes successifs à Paris.
Il se fait qu'à un moment donné, une crise se produit à la tête du TNP. Le public le déserte. Peut-être cette crise a été exagérée d'ailleurs par la presse à l'époque. En tout cas, le gouvernement, et spécialement Jacques Duhamel, s'interroge sur une éventuelle succession. Et ils mettent en compétition, entre guillemets, deux personnes très différentes. Paul Puot, qui était le président du Festival d'Avignon, l'ami proche de Jean Villard, qui avait assuré la succession avec beaucoup de talent, et moi-même incarnant un tout autre style, une toute autre conception du théâtre. Et je crois que le ministre a balancé entre ces deux solutions. Et finalement, ils ont opté pour un changement
radical.
On peut dire ainsi, oui, radical.
Parce que vous n'êtes pas un professionnel.
Ah non, alors, je ne remplissais aucune des conditions normalement requises pour ce type de poste à l'époque. J'étais jeune encore.
Oui.
Généralement, on nommait des colonels ou des généraux du métier. J'étais pas un professionnel. J'étais, bon, un amateur éclairé. J'étais un provincial incrusté, enraciné. Donc, je ne remplissais aucune condition.
Et vous n'aviez jamais dirigé d'établissement culturel.
Et j'avais jamais dirigé un théâtre. Je n'appartenais pas au système. J'étais plutôt classé comme un homme progressiste. C'était l'époque de la présidence de Georges Pompidou. Donc, ça paraissait absolument étonnant, inhabituel et étrange que l'on sollicite quelqu'un qui soit à ce point hors norme.
Ça ne vous effraie pas ?
Non, ce qui... je suis touché, évidemment, d'être sollicité. Et en même temps, je ne peux pas vous dire que j'accepte immédiatement. Pourquoi ? J'étais très profondément attaché à Nancy. J'avais de nombreux projets sur place de création d'un théâtre permanent qui malheureusement se heurtait à un non possumus constant de la part des autorités locales ou nationales. J'avais le sentiment de trahir un peu ma province natale, la Lorraine, en quittant Nancy pour Paris. Et puis, entrer dans le système était le plus difficile pour moi. J'ai arraché l'agrégation pour être libre, libre, pleinement libre. Est-ce qu'en acceptant une telle fonction, je ne risque pas de devenir un officiel ou un homme dépendant d'un gouvernement ou d'une institution? Et je me suis beaucoup interrogé, à tel point que une maladie plus ou moins psychologique s'est déclarée. J'ai appelé Antoine de Clermont-Tonnerre et je lui ai dit, écoutez, prenez quelqu'un d'autre. Je ne le sens pas, Et en plus, je ne suis pas en forme. Je serai rétabli dans un mois, mais il me faut du temps.
Le malade imaginaire.
Et ils m'ont répondu, on prendra le temps. Donc j'étais coincé.
Et donc,
ça paraît évidemment bizarre que quelqu'un dise ça, mais... Et d'ailleurs, je me souviens que finalement, j'y suis allé à contre-cœur. Mais quelquefois, il faut accepter des choses à contre-cœur, en se disant que ce sera une occasion de se dépasser soi-même. Je me souviens de la conférence de presse organisée par Jacques Duhamel, avec d'un côté Patrice Chéreau et Roger Planchon, qui prenaient la tête à sa demande du TNP transféré à Villeurbanne, et de moi-même nommé directeur du Théâtre National du Palais de Chaillot, je crois que je n'ai pas dû dire deux mots. Voilà, et puis ensuite il a fallu travailler, agir et inventer.
Alors, vous y allez à contre-cœur, mais vous y allez quand même.
J'y vais quand même.
Qu'est-ce qui vous pousse à y aller ? Votre épouse ?
Ah non.
Vous, non ?
Non, c'est...
Vous décidez tout seul ?
Les projets que j'avais à Nancy, les projets d'un théâtre permanent à Nancy, se heurtaient à des empêchements multiples. Comme j'avais envie de créer une école de théâtre, j'avais envie de prolonger ce festival par toute une série d'initiatives à Nancy ou en Lorraine, bon, ça ne marchait pas. Et je me suis dit que l'occasion était venue de déployer ses capacités nouvelles à la tête d'un théâtre national. Donc j'étais dans une contradiction, voilà, c'est clair. Et pour dire la vérité, puisque vous voulez absolument tout savoir, bon, c'était passionnant, cette direction du Théâtre de Chaillot. J'ai appris 1000 choses. Et j'ai même appris, sans le savoir, mon métier de futur ministre. Parce que j'ai pu me confronter aux administrations, au ministère des Finances, au ministère de la Culture. J'ai fait la connaissance du milieu professionnel que je ne connaissais pas. Ça a été vraiment une école. Il y a eu deux écoles pour moi pour être ministre. Nancy, où j'ai appris la débrouillardise, l'invention, l'enthousiasme permanent, la convivialité, l'amour du travail en équipe. Et la deuxième école, ça a été Chaillot, parce que j'ai appris ce qu'est le pouvoir d'État, le pouvoir des professionnels de la profession. Donc c'est deux écoles qui m'ont été très utiles pour me préparer à une fonction que je ne pensais jamais exercer, celle de ministre de la Culture.
Donc vous êtes nommé le 30 mars 1972. Que ressentez-vous à ce moment-là ?
Serais-je à la hauteur ? J'étais confronté à des défis, pour moi, immenses. Les personnels. Il fallait renégocier les conventions collectives et je ne connaissais rien à rien à ces sujets. L'architecture de Chaillot. Triste à mourir, en particulier les couloirs souterrains qui conduisent au bureau, comme dans un bunker. La salle elle-même, gigantesque, panoramique, comme une sorte d'écran de cinémascope, extraordinairement inconfortable. Et seul Villard, en vérité, a réussi à en faire un bon usage en focalisant l'espace, grâce à son système de lumière, sur quelques mètres carrés. Le temps. On me nomme tardivement. Comment concevoir une programmation en quelques mois pour redonner confiance à un public quand on y pense rétrospectivement, c'était un peu de la folie quand même. Un peu de... Confier les rênes d'un tel théâtre à un non-professionnel qui ne connaissait rien de la gestion d'un théâtre, à qui on demande de concevoir une programmation et un changement radical en quelques mois, dans une salle qui n'est pas accordée à un nouveau théâtre. Alors j'ai été pris d'une interrogation profonde. Comment faire ? Alors, le hasard est une chose merveilleuse qui vous donne souvent le déclic. Je sollicite Bob Wilson pour réfléchir à ce que pourrait être un spectacle d'ouverture. Je le vois encore dessiné dans la grande salle. Et il m'explique au crayon que le spectacle qu'il imagine ne peut absolument pas se réaliser dans cette grande salle. Parce qu'elle est trop rigide, parce qu'elle est trop large, et pas assez profonde. Et en l'écoutant parler, je me dis, mais si je convainquais le ministre de changer cette salle? Ce n'était pas du tout prévu. Ce n'était pas du tout dans le cahier des charges ou dans le contrat moral conclu entre le ministre et moi-même. Et plus je réfléchissais, plus je me disais que la seule manière de me sortir de cette impasse, c'était de gagner du temps en transformant la salle pour la rendre plus accordée, plus adaptée à nos projets de spectacle d'un type nouveau qui associe à la fois l'actualité, l'utopie, des écrivains nouveaux, la cinématographie, la vidéo et le reste. Tout ce que vous pouvez voir un petit peu aujourd'hui, parfois abusivement. Et je réussis à convaincre Jacques Duhamel. Je lui prépare un document avec des plans, je lui explique que ça ne coûtera pas si cher, déjà ça n'a pas coûté très cher. Et miraculeusement, il accepte, en me disant, vous me forcez la main. Nous n'avions pas convenu, lorsque je vous ai engagé dans l'aventure, que vous me demanderiez la transformation de la salle. En plus, je sollicite Antoine Vitez, qui était devenu un ami, et une des révélations de Nancy, pour devenir co-directeur artistique. Donc, je renforce notre équipe et notre capacité de discussion, de négociation. Et là encore, Jacques Duhamel me dit, mais c'est vous que j'ai nommé, et non pas un couple. Bref, il a été avec moi d'une compréhension, d'une gentillesse, d'une intelligence, d'une certaine manière, parce qu'il comprenait que la condition de la réussite, c'était de transformer cette salle sous l'impulsion de ce couple vitesse-langue, langue-vitesse.
Vous y restez 2 ans, en 1974... Le ministre Michel Guy se débarrasse de vous, on peut dire ça comme ça.
Il me vire.
Oui. Pour quelle raison? Pour quel motif?
Oh, ce ne sont pas nécessairement les raisons. Bon, disons que.
Non, mais il estime que vous avez échoué dans votre mission.
Il ne le dit pas ainsi. Bon, au fond, je ne sais pas quels étaient les. Je ne me souviens plus des motifs officiels affichés. La vérité. Bon, Michel Guy, disons, était un homme. Il était secrétaire d'État à la culture de M. Giscard d'Estaing. C'est un homme qui ne manquait pas d'idées et d'imagination. C'était un homme de goût, un homme raffiné, un homme cultivé. Mais nous avions été, si j'ose dire, c'est un peu enfantin, en compétition l'un avec l'autre, antérieurement. Festival de Nancy contre Festival d'Automne que Georges Pompidou avait créé pour lui. Alors il y a eu quelques affrontements, et en particulier à propos de la Gaîté Lyrique, en tant que directeur de Chaillot, j'avais occupé pour nos propres spectacles à la place des siens. Bref, il m'en voulait. C'est une erreur de transformer une rixe personnelle en une décision d'État lorsqu'on accède à des responsabilités. Mais enfin, à peine arrivé, il décide de me jeter dehors. Sans même me recevoir, il fait accomplir cette mission par son directeur de cabinet. Et alors à ce moment-là, se crée autour de notre équipe un élan incroyable d'artistes, de créateurs, de metteurs en scène, de journalistes aussi, et beaucoup protestent contre ce qui apparaît comme un acte arbitraire. Interrompre au milieu du guet une expérience nouvelle. Voilà.
Vous l'encouragez, ce mouvement, à vous défendre?
Oui, je l'encourage.
Donc vous estimez que vous réussissez la mission
vraiment.
Qu'on vous a
aujourd'hui confié. Encore, j'estime que l'acte qui a été accompli est un acte d'arbitraire, un acte de unilatéral, injustifiable. Mais disons que, bon, avec le temps. La colère s'est apaisée. Plus tard, lorsque je suis devenu ministre de la Culture, j'ai rencontré Michel Guy. Nous nous sommes expliqués un peu. Mais au fond, je vais vous dire une chose. j'aurais dû lui dire plus clairement qu'il m'avait rendu un immense service.
Pourquoi ?
Il n'a peut-être pas rendu un immense service au théâtre de Chaillot, parce que la succession a été provisoirement mal assurée. Plus tard, je réussirai à convaincre un ministre de faire appel à Antoine Vitesse pour reprendre le flambeau. Pourquoi ? Parce que, d'abord, ce théâtre me pesait par sa lourdeur. Et puis, d'une certaine manière, il a contribué à l'accomplissement de, non pas d'un rêve, mais de mon itinéraire de vie. Et je me souviens que, à ce moment-là, Antoine Vitesse m'a dit, mais écoute Jacques, c'est très mal ce qu'a fait Michel Guy, mais au fond, il a nommé, en t'évinçant, le futur ministre de la Culture de la Gauche. Je ne comprenais absolument pas ce qu'il me disait. Je lui dis, écoute, tu exagères. Et quelques semaines plus tard, à Rabal, que je rencontre au Venezuela, dans un festival de théâtre étudiant, on me dit, mais Jacques, c'est formidable ce qui t'arrive, c'est fabuleux, j'arrive pas à l'imiter, excusez-moi. Mais tu vas devenir bientôt le ministre de la Culture de la Gauche. Et c'est vrai que parfois, les choses s'inversent ainsi dans la vie. Et il faut parfois remercier ceux qui ont cru vous faire du mal.
Mais vous n'étiez pas persuadé, vous ne sentiez pas, vous n'aviez pas cette envie de devenir ministre ?
Alors ensuite, alors finalement, les paroles finissent par pénétrer dans votre cerveau. Les paroles de Vitesse et d'Arabal, qui sur le moment me paraissaient surréalistes, ont fini par pénétrer ma mémoire jusqu'au moment où je me suis dit qu'après tout, pourquoi pas.
Merci, Jacques Lang, et à demain.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jean-Marc Crantor avec Jack Lang. À voix nue, réalisation Marie Classet, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.